Bonjour à tous, bienvenue à cette 46e édition du 33-45. Mon nom est Pierre-Luc Delisle et si c'est votre première fois, sachez que le 33-45 est un podcast dans lequel on fait jouer des vinyles de ma collection sous une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, la thématique sera Stranger Things saison 2. Oui, et faites-vous-en pas. Si vous n'avez pas fini la saison, si vous ne l'avez pas écouté tout simplement, Stranger Things, je ne spoilerai pas. Autant la saison 1 que la saison 2. D'ailleurs, si vous n'avez pas toujours écouté la saison 2, je vous invite à le faire très rapidement parce que c'est une excellente saison et il y a des bonnes chances que quelqu'un s'échappe un moment donné. Donc, c'est pour ça que moi, je les ai clenchés assez rapidement en plus ou moins une semaine. Et si vous ne connaissez pas du tout la série Stranger Things, sachez que c'est une série sur Netflix. Je prends en considération que certains d'entre vous ne sont pas abonnés à Netflix. Si vous ne connaissez pas Netflix, d'ailleurs, c'est une plateforme web qui ressemble un peu à un club vidéo en ligne. Le premier mois est gratuit. Donc, si jamais vous vous intéressez à la série Stranger Things, je vous conseille de tout simplement vous abonner pour un mois et de vous désabonner. Ça ne vous coûtera rien. Vous avez deux saisons à écouter. Tout simplement, ou alors dans votre club vidéo torrent préféré, ça se trouve quand même assez aisément sur Internet. Stranger Things, en fait, c'est une série dans laquelle, puis on parlera pas beaucoup de la série aujourd'hui parce que je veux vraiment m'investir un peu sur la musique parce qu'on parle souvent que cette série-là, elle est très... Elle fait référence beaucoup aux années 80 et aux films. Qu'on y retrouvait. Il y a beaucoup de références à Ghostbusters, entre autres, à Goonies, à des films comme ça. Si vous êtes un enfant des années 80, là, c'est quelque chose que vous devez absolument écouter, cette série-là, vous allez adorer. Et la musique qu'on y fait jouer dans la saison 1, elle était pas si mal. Et dans la saison 2, moi, j'ai pas arrêté de dire « Waouh, ça, c'était... » Ça habille tellement une émission de télé quand que... Vous savez, quand les émissions qui jouent, quand les chansons qui jouent dans le show, autant dans une série, au cinéma, c'est plus fréquent, mais dans une série télé, si on considère que Netflix est de la télé, c'est plus rare. Puis moi, je trouve que ça habille tellement bien. Tu sais, on arrive dans la chambre d'un enfant, puis la musique qu'il joue, ben c'est de la musique qu'on écoutait. T'sais, c'est pas l'espèce de son qui sonne un peu pareil, là, l'espèce de musique qu'on a tendance à écouter. Parce que ça coûte très cher avoir les droits musicaux. Fait qu'en quelque part, je pense que dans la saison 2, ils ont mis vraiment le paquet parce que justement, ils avaient les sous et ils avaient l'intérêt de le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne gâcherai pas aucun moment clé de la série et de la saison 2. Par contre, je vais faire jouer de la musique qui va jouer dans la série. Et en quelque part, je pense pas que ça soit des gros spoilers, là. Si vous l'avez pas vu, la série, ne vous inquiétez pas, là, vous pouvez quand même continuer à écouter le podcast. Et en fait, la première chanson qu'on va aller faire jouer, elle était dans la bande-annonce, en fait, même, je crois, de la deuxième saison. Donc, très rapidement, on voyait nos quatre héros, les quatre jeunes, la petite bande d'amis à l'Halloween déguisés en Ghostbusters. Et je pense que vous me voyez venir. On va aller écouter la chanson thème de Ghostbusters. Et après, ben, on va aller parler de cette chanson-là. Parce que elle a une histoire qui est propre. Hein, des accusations de plagiat, des règlements hors cours, des procès. Et voilà, on en reparle.
Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? afraid of no ghosts.
Tout à l'heure qu'on allait reparler un peu de cette chanson-là, il y a eu une poursuite assez incroyable par rapport aux droits de cette musique-là. En fait, quand elle est sortie en 84, ça a été un gros hit, là. Ça a été premier au palmarès et tout ça. Donc, c'est assez rare pour une chanson qui a été spécifiquement créée pour un film. C'est Huey Lewis and the News, le chanteur Huey Lewis, qui a accusé en fait fortement et très rapidement pour plagiat, parce que cette chanson-là ressemble étrangement à une chanson qu'il a fait qui s'appelle I Want a New Drug sur l'album Sports, je crois. C'est une excellente chanson d'ailleurs, cette chanson-là, je vous invite à aller l'entendre. Je voulais la faire jouer finalement, mais je trouvais que ça sortait un peu de mathématiques là, de Stranger Things saison 2, alors je la ferai pas jouer, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que quand ils ont fait le film Ghostbusters, ils avaient en tête le son caractéristique, un peu rock new age là, que Huey Lewis avait. Et même, ils ont retrouvé du footage dans lequel ils faisaient jouer des passes de Ghostbusters, puis ils mettaient de la musique de Huey Lewis pour savoir un peu qu'est-ce que ça allait donner et tout ça. Et finalement, il y a eu un essai d'entente avec Huey Lewis, puis finalement, ça n'a pas fait. Fait que ce qu'ils ont fait, en fait, les producteurs, c'est qu'ils ont engagé quelqu'un qui est inconnu, là, Ray Parker Jr., on le connaît que pour la chanson Ghostbusters d'ailleurs, et ils ont demandé carrément, fais-nous quelque chose qui sonne comme Huey Lewis. Puis ça a été prouvé en cours. Hors cours, en 95, donc 9 ans après pratiquement, ils ont réglé hors cours pour un montant undisclosed, donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé réellement, mais heureusement, le Huey Lewis a réussi à prouver qu'en fait, ils ont volé. C'était pas sa musique, mais en quelque part, lui, il disait que c'était pas. C'est pas tant qu'il ait copié un peu le style de sa chanson. Il a pas copié le style, en fait, il a copié quasiment tous les accords. Mais c'est le fait que il voulait démontrer que quand l'industrie veut quelque chose, même si toi tu veux pas, ils réussissent à l'avoir d'une certaine façon. Ils ont voulu avoir le son de Huey Lewis, ils n'étaient pas capables de l'avoir parce qu'ils ne sont pas entendus financièrement, ou peut-être que Huey Lewis s'intéressait tout simplement pas de vendre sa chanson pour ou son son ou de la musique pour un film. Il l'avait déjà fait de toute façon avec avec voyons, Retour vers le futur, de Power of Love, c'est sa chanson. Peut-être qu'il voulait pas être associé à quelqu'un qui faisait de la musique de film aussi, j'en sais trop rien. Mais bref, ils ont pris son son, puis c'est ce qu'il voulait prouver. Fait qu'en 95, il y a eu un règlement hors cour en faveur de Huey Lewis. Donc à ce moment-là, il s'est fait donner des sous en échange de pas dire le montant qu'il avait reçu. Et en 2001, je crois, dans une interview à VH1, donc une espèce de musique plus là, anglophone, dans une entrevue, il avait divulgué le montant. Je me souviens pas c'était quoi exactement. Fait que là, Ray Parker Jr. l'a poursuivi, puis ça s'est réglé en 2004. Il me semble que ça fait pas longtemps que c'est réglé, cette histoire-là. Fait que juste pour vous dire que ben il y a toute qu'une histoire de plagiat en arrière de cette chanson-là. Je vais en profiter aussi pour parler du nouveau film de Ghostbusters. Ils ont fait un film avec Ghostbusters là, qu'on surnomme le Ghostbusters film fille, parce que ça fait longtemps qu'ils parlaient d'un Ghostbusters 3, blablabla. Et finalement, ce qu'on s'est fait livrer, c'est un Ghostbusters avec un cast complètement féminin qui a pas dans les yeux de plusieurs. N'a pas vraiment à voir avec, avec la franchise de Ghostbusters qui était tant appréciée par nous tous. Personnellement, je vais vous le dire, ça va peut-être vous surprendre, j'ai beaucoup aimé le Ghostbusters fille, donc le Ghostbusters 2016, je crois. Je vous invite à aller le voir. Les gens qui. En fait, ils ont repris beaucoup du même esprit, dans le sens où ce que les quatre Ghostbusters originaux en tant qu'acteurs et comédiens provenaient tous du monde un peu du Saturday Night Live, puis du open mic, puis du. Vous savez, là, du comédien là, un peu américain à la stand-up. Et ben, les quatre filles qui ont engagé pour faire les rôles, c'est pas mal dans les mêmes cordes. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient très forts en impro. Puis on le voit d'ailleurs dans les bonus features du DVD, du Blu-ray, où ce que il était capable de faire comme 15 répliques différentes, puis il prenait la plus drôle, là. T'sais, il y avait un texte à suivre, mais il se prenait quand même beaucoup de liberté. Puis honnêtement, si on passe le fait que. Parce que bon. C'est sûr que c'est un film qui est con puis qui est tiré par les cheveux. C'est chaque personnage est hyper caractérisé dans son rôle de. C'est comme toutes des espèces de comment on dit ça, de stéréotypes féminins, si on veut. Mais les films originaux de Ghostbusters, moi, honnêtement, je pense que c'est ça aussi. C'était très autoparodique. Fait qu'ils ont gardé le même esprit. Puis honnêtement, là, si vous ne l'avez pas vu, puis vous l'avez boycotté dès la sortie, parce que je connais des gens qui ne l'ont pas écouté parce qu'ils voient ça comme étant un peu de la rectitude politique, de dire ben là, il faut mettre plus de filles au cinéma. Puis honnêtement, il y a peut-être de ça aussi un peu. C'est sûr que c'est pas le film qu'on aurait voulu, mais honnêtement, moi je trouve que c'est un des meilleurs films de la franchise. Je le trouve en tout cas certainement meilleur que Ghostbusters 2, je tiens à vous le dire. Fait qu'on va continuer avec notre thématique de Stranger Things avec une chanson qui joue dans un party d'Halloween. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent ce qui est le fun, c'est que la musique qu'on entend, c'est la musique qu'on pouvait entendre. C'est pas une espèce de musaque, de fausse musique. On voulait faire jouer du Motley Crue Shout Out at Devil et on a fait jouer cette chanson-là. Donc, sans plus attendre, on va aller écouter ça.
We'll be right back.
yeah, c'était Shout Out of the Devil. Je sais pas si ça passe. Tu sais, des fois, je me dis que. T'sais, la musique, elle joue sur vinyle, hein, uniquement. Là. Tous les vinyles que vous allez entendre, toutes les chansons que vous allez entendre aujourd'hui, ça provient toutes de mes vinyles. Moi, je le sens. T'sais. Quand je réécoute le podcast par la suite, là, je me rends compte que c'est un vinyle qui joue, même si maintenant ça devient numérisé, parce qu'en quelque part, vous n'entendez pas ce que moi j'entends en studio entre huit paires de guillemets. Là. C'est plus. Sur mon bureau avec ma chaise qui coince. Non, non, mais c'est. En tout cas, je pense, moi, je l'entends. Quand je l'écoute dans mon auto, je me rends compte que c'est pas la qualité d'un voyons, comment on appelle ça, d'un vidéo YouTube. Puis d'ailleurs, quand ça arrive, moi, je vois c'est ceux qui font du podcast vont savoir de quoi je parle. Tu sais, on regarde toujours les lignes d'audio track là, pour savoir bon les décibels et tout ça, puis essayer de fitter ça, que ça reste un peu dans le même registre là, entre la musique et la voix et tout ça. Quand je fais jouer un vinyle, je vois clairement plus de richesse dans la musique que quand je fais jouer un CD ou un MP3. C'est clair, je le vois visuellement. Motley Crue, ça, je les ai vus en show. Je l'ai déjà compté, je pense. Il y a une anecdote que je peux vous conter, par contre. Le drummer Tommy Lee était blessé à un poignet, fait qu'il pouvait pas jouer du drum. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'il était quand même. Il était quand même venu sur le stage expliquer que. Puis il a utilisé le mot fuck vraiment souvent. Il a dit qu'il aimait ça jouer, puis qu'il pouvait pas, puis blablabla. Puis deux, trois fois, quatre fois dans le show, à un moment donné, il est venu dire: Ouais, je vais jouer une toune à la fin, là, je peux jouer du clavier quand même, puis tout ça. Puis il a joué une toune au clavier, fait que c'était quand même cool de. Tu sais, Motley Crue ont quand même mauvaise réputation, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool que le drummer, tu sais, comme il participait au show pareil, même s'il pouvait pas jouer. Fait que ça, c'était cool. Par contre, il y avait une structure immense qui partait du stage jusqu'au milieu du parterre, qui aurait amené Tommy Lee la tête en bas en jouant du drum. Puis on n'a pas eu la chance de le voir. Je l'ai vu sur YouTube, là, c'était assez hallucinant la plateforme de le voir jouer du drum à l'envers, attaché. Mais je pense pour que des questions d'assurance, puis parce qu'il avait son poignet était brisé et tout ça, là, le drummer remplaçant qu'ils ont trouvé pour cette journée-là, qui était, si je ne me trompe pas, le drummer d'Alice Cooper, parce qu'Alice Cooper est en première partie. Il l'a pas fait, là, le drum avec la tête à l'envers, parce que probablement qu'il était juste pas à l'aise, j'imagine. À soir, tu vas remplacer le drummer de Motley Crue, ok? Je pense que je vais être capable, je vais faire de mon mieux. À soir, tu vas jouer à la tête à l'envers. Ça, non, mais je pense que ça faisait pas partie du package deal. Quand j'ai écouté Stranger Things saison 2, j'ai commencé à noter les chansons que je voulais faire jouer puis que j'avais en vinyle. Il y en a une que j'ai notée, c'est Scorpions, Rock Like an Hurricane, et malheureusement, j'ai pas noté à l'endroit ou rien, mais c'est pas grave parce que je veux pas raconter qu'est-ce qui se passe dans la série. La seule chose, c'est que je peux vous garantir que cette chanson-là joue et ça va commencer bientôt. Une excellente chanson. Je suis content. Le podcast aujourd'hui, il va faire. Il va être très rock.
Sleeping his lips, he's ready to win on the hunt tonight for.
C'était Scorpions avec Rock You Like a Hurricane, une excellente chanson des années 80. D'ailleurs, le thème des années 80, c'est souvent quelque chose qui m'est demandé en suggestion dans mon Facebook. Je l'ai fait une fois, je crois, où est-ce que c'était plus de la musique des années 80, ou du moins j'ai fait les plus grands vendeurs des années 70, tout ça. Puis après ça, ben, j'ai été un peu... tu sais, le style du podcast s'est dessiné un peu à travers les épisodes. Puis de plus en plus, ce que j'aime, c'est de prendre des thématiques qui sont un peu étranges. Souvent, la thématique n'aura pas rapport avec la musique, de plus en plus. Pourquoi? C'est parce que si je fais les années 80, c'est tellement large. T'sais, c'est une décennie de musique. Ça doit être au-dessus d'un million de chansons qui ont été produites. T'sais. C'est trop large. Mais si vous avez des idées, des fois, là, de thématiques un peu, là, si vous écoutez le show depuis longtemps, voyez un peu le style dans lequel j'aime m'embarquer. Il n'y a aucun engagement, hein, si vous me suggérez quelque chose. Mais écoutez, ça me fait tellement plaisir. J'ai beaucoup de courriels aussi de votre part, de gens qui apprécient le podcast, des gens qui écoutent ça au travail, des gens qui écoutent ça à la maison, des gens qui font aussi du podcast. Donc, beaucoup de personnes différentes. Et j'ai un engagement, par contre, avec vous. Hein. Vous savez, si vous avez écouté déjà des épisodes, si vous me donnez un don de 5$ sur mon PayPal, en fait c'est simple, www.facebook.com/le3345 ou googlez-le, vous allez le trouver à quelque part, sur ma page Facebook du 3345, il y a un petit bouton acheter. Donc si vous cliquez sur ce bouton-là et que vous me faites un don de 5$, vous pouvez casser l'ambiance et faire votre choix de thématique. Donc soit vous choisissez 3 chansons et vous faites une thématique vous-même, c'est à vous les ondes, moi je vais jongler avec ça, ou soit vous me donnez une thématique vraiment loufoque avec comme mandat « arrange-toi avec ça ». Ça m'est jamais vraiment encore arrivé. Parce que les gens qui m'ont donné des sous, puis c'est bien correct, là, c'est leur argent, puis c'est ce qu'ils veulent, m'ont souvent suggéré des chansons en particulier. Mais ce que j'aimerais, là, c'est vraiment des gens qui m'envoient des thématiques, là, où ce que, tu sais, t'envoies ça, puis j'ai aucune idée ce qu'il va faire avec ça. C'est vraiment ce que j'aimerais avoir. Donc, envoyez-moi des affaires là, vraiment fucked up, puis ça va me faire plaisir de les faire jouer. Puis on va continuer encore avec Stranger Things. La saison 3 est confirmée, d'ailleurs. Hein. De toute façon, quand il y a des gros succès comme ça, on peut pas passer à côté. Ils vont faire des saisons jusqu'au temps que ça s'est plus bon. Par contre, je pense que l'ambiance n'est pas cassée. Je pense qu'il y a encore du potentiel. C'est sûr que c'est encore très, 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 très embryonnaire comme discussion. Mais il y a une décision qui a été prise, c'est d'amener la série plusieurs années ou 2-3 ans là, par après, dans le sens où c'est des enfants, dans le fond, qui sont représentés. Je pense qu'ils ont quelque chose comme 12-13 ans dans la série. Puis, ben, ils paraissent plus tellement. Ils étaient peut-être un peu plus vieux que ça, même lors de la première saison. À la deuxième saison, ben, ils ont grandi. Puis là, c'est l'adolescence hein, qui rentre là-dedans. Fait qu'en quelque part, pour pas avoir à changer les acteurs ou à faire comme Harry Potter, puis un peu traîner les rôles un peu trop longtemps, ils vont faire vieillir, en fait, les personnages en même temps que la série. C'est ce qui est dit présentement sur Internet, puis ça serait pas une bonne chose. Ça serait pas une mauvaise chose, c'est-à-dire. Et ça va permettre d'aller un peu plus loin dans cette série-là, qui en promet encore beaucoup. Encore une chanson qui joue dans la saison 2, puis j'ai été vraiment content de l'entendre, celle-là. C'est une chanson de Queen qui s'appelle « Hammer to Fall ». C'est pas un des gros classiques de Queen, puis habituellement, quand Queen est au cinéma, c'est toujours genre « We Will Rock You »,« Bohemian Rhapsody », ou We Are the Champions, bien souvent dans les films de sport. Fait que j'étais content d'entendre Hammer to Fall, qui est une chanson sur leur album The Works, qui est le même album sur lequel on entend la chanson Radio Gaga. Et je trouve ça fun parce que c'est un disque que je regarde en ce moment. Il provient de la maison Columbia. Donc c'est un vinyle qui provient de la maison Columbia parce que nous, ben moi je l'ai connu à la maison Columbia pour les CD. Mais un jour, je veux vraiment faire un spécial maison Columbia parce que à une époque où ce qu'Internet n'existait pas. Ça a été un gros provider de musique pour moi et j'étais quelqu'un comme un bon petit garçon qui respectait ses contrats. Oui, j'en ai eu 4-5 avec la maison Columbia et qui abonnait également mes petits amis pour faire des disques gratuits en espérant que eux allaient pouvoir acheter des disques différents de moi pour qu'on puisse les prêter et enregistrer des cassettes. Ben oui. Donc on va y aller avec Queen et Freddie Mercury et leur excellente chanson Hammer to Fall.
Yeah.
ça m'a fait plaisir d'entendre cette chanson-là, mais c'est pas elle qui m'a fait le plus plaisir d'entendre dans Stranger Things saison 2. À un moment donné, on entend, j'identifierai pas le personnage, mais bon, il y a un personnage dans la série qui est un ado un peu plus vieux, avec les cheveux longs et tout ça, il y a tout le style du petit bum parfait, là. Dans sa chambre, je pense qu'il s'entraîne, ou en tout cas, il fait quelque chose dans sa chambre, et ce qu'on entend en arrière-plan, c'est du Metallica. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu souvent de Metallica dans des séries. Pourtant, c'est quand même une imagerie assez forte, dans le sens où ce que, quand même beaucoup de gens de cette époque-là, à cet âge-là, qui écoutaient du Metallica. Et je pense pas qu'ils soient très, très. Je pense pas que Metallica veuille vendre tellement leur musique, hein, parce que tu sais, ils ont été beaucoup l'Arsulric, surtout dans la bataille contre Napster et tout ça. Maintenant, ils produisent eux-mêmes leurs albums, qu'ils vendent eux-mêmes et qu'ils distribuent eux-mêmes. C'est très louable de leur part, là, mais c'est un, tu sais, ils sont encore propriétaires de tout ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une très belle chose de la part de Metallica. Mais il reste que ça m'a surpris d'entendre la chanson, puis la chanson qu'il a jouée. C'est The Four Horsemen, qui est une christie de bonne chanson d'ailleurs de Metallica. Puis tu sais, là, je me demandais, voyons, c'est sur quel album ça? En fait, c'est sur le premier, c'est sur Kill 'Em All. Et en arrière-plan, on voit non seulement on entend la musique, mais on voit que le dit personnage a un poster de Kill 'Em All, donc la pochette, dans sa chambre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça m'a comme fait, oh! Tu sais, c'était un petit. Un petit moment fan service là, qui a fait en sorte que ça m'a vraiment plu, parce que je suis quand même un fan de Metallica. C'est un des seuls albums que j'ai qui est. En fait, j'ai tous les albums de Metallica en vinyle, et c'est le seul que j'ai en original. Dans le fond, c'est un disque de l'époque. Ils sont très durs à trouver, ils sont assez dispendieux. J'ai trouvé ça dans un lot à un moment donné. J'aurais pas payé aussi cher pour ça. C'est un disque sur Banzai Record, et il date de 83, donc c'est pas une réédition. C'est vraiment le fun à avoir, puis la qualité de l'album, il est encore très beau. Et sans plus attendre, on y va avec du Metallica! Mes hommages au gars de la cassette qui aime pas Metallica en passant. J'suis un gars de Québec, moi!
Now
Je suis non seulement content qu'il ait fait jouer du Metallica, mais comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment content qu'il ait fait jouer cette toune-là. Parce que c'est une toune de Metallica à une époque où c'était marginal. Les flows, c'était des flows Metallica à l'époque, là. C'était en 83, j'avais un an, vierge. Ça fait 34 ans qu'ils ont fait cette chanson-là que vous venez d'entendre. Oh boy, c'est tellement bon. Ça a un petit côté prog en plus. Si Metallica avait resté vers ça, hein, il essaye d'y retourner. Tu sais, ça, c'est une chanson de Four Horsemen qui est un peu moins agressive aussi. Hein. Ben, je veux dire, c'est joué rapide puis tout, là, mais c'est quand même très recherché musicalement. Puis, tu sais, avec Load et Reload et tout ça, sont devenus un petit peu plus pop puis hard rock. Puis maintenant, dans les derniers albums, ils tentent d'être un peu plus speed metal pour retourner aux origines. Mais c'est pas ces origines-là, tant qu'à moi. C'est plus la. Tu sais, c'est. Iron Maiden, je trouve qu'il est resté maintenant quand ils sortent des. Dans certains nouveaux albums, du moins, là, ils réussissent à faire des morceaux épiques, tu sais, comme ce qu'on vient d'entendre. Mais Metallica s'en va dans du. En tout cas, c'est pas que c'est pas bon, hein, les nouveaux albums de Metallica, surtout le dernier, là, il est très bon, mais ils sont pas capables d'accoter ce qu'ils ont fait en début de carrière. C'est comme ça. Il y en a qui sont capables, il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est pas juste de la chanson marginale, hein, qui est entendue dans Stranger Things. Il y a beaucoup en background aussi de la musique qu'on pourrait entendre à la radio, puis je trouve que ça contribue beaucoup à l'atmosphère de la série. Une de ces chansons-là, c'est une chanson de Pat Benatar qui est Love is a Battlefield qu'on entend dans un des derniers épisodes de la série, justement pour meubler, juste pour nous remettre dans le fond dans l'esprit du moment où ce que les jeunes ont vécu des expériences. C'est ce qu'on entendait, c'est ce qu'ils entendent eux aussi.
We are young, heartache to heart, we stand. No promises, no demands. Love is a battle.
We are strong. No one can tell us where we're wrong.
quelque chose de bien drôle avec cette chanson-là, c'est que je cherchais sur quel album, parce que les albums de Pat Benatar, je les ai pas mal tous, et je cherchais la chanson Love is a Battlefield, puis je la trouvais pas. La chanson est sortie en single, puis elle est sortie en même temps que le disque, un disque live. Fait que dans le fond, c'est sur l'album Live from Earth qu'on retrouve la première fois qu'on entend cette chanson-là. Et elle est pas live, elle est enregistrée studio. Puis elle n'est pas en bonus, elle est juste là, enregistrée sur un album live, alors que c'est pas une chanson qui avait paru avant. C'est un peu étrange. Une autre chanson qui me fait vraiment bien plaisir d'entendre, et c'est déjà le temps de penser à la fin du podcast, j'ai encore deux chansons à vous faire jouer. Il y a une chanson qui me fait vraiment plaisir d'entendre, c'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, elle a fait une chanson qui s'appelle Time After Time, et cette chanson-là parle de confiance, de côté sombre qu'on a parfois, de nostalgie, de tristesse, mais aussi d'amour. Puis la chanson Time After Time, je trouve qu'elle colle très bien à l'esprit de Stranger Things saison 2, parce qu'il y a beaucoup d'amour qui se passe, puis je vais arrêter là, je donne pas plus de détails, mais il y a beaucoup d'amour de la part des personnages, puis il y a beaucoup de, sans se former de couple, il y a beaucoup d'interactions qui s'ils font une saison 3 à ce moment-là, ça va... je suis sûr que ça va avoir un impact sur l'histoire de la saison, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se développent dans Stranger Things saison 2. Et je vais m'arrêter là tout de suite, parce que je veux vraiment gâcher le punch à personne. On va aller écouter Time After Time, une de mes chansons préférées de Cyndi Lauper.
Back one night.
belle chanson. Elle met le petit trémolo à chaque fois, cette chanson-là. C'est une chanson qui me touche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, hey, je veux, c'est déjà le temps de terminer le podcast, puis je vais dédier la chanson à mon ami Étienne. Étienne qui est déjà venu deux fois au podcast, pour la première fois pour sa BD Frivolesque, puis une deuxième fois pour un podcast sur Rocky. On va sûrement le revoir parmi nous un jour, parce que j'ai adoré mes expériences d'enregistrer des podcasts avec lui, et lui aussi a apprécié. On avait parlé de Cyndi Lauper dans un podcast qu'on avait fait ensemble, je me souviens pas, c'est carrément celui-là sur Frivolesque, parce que bon, Frivolesque a un petit côté girl power et Cyndi Lauper aussi, donc ça m'inspirait d'en faire jouer. Et il m'avait dit à ce moment-là qu'une de ses chansons préférées, sinon la chanson préférée de Cyndi Lauper, c'était la chanson The Goonies Aren't Good Enough, donc la chanson thème de The Goonies. The Goonies, qui est un film des années 80 que vous connaissez sans doute, ça donne un gros impact sur l'influence puis l'esthétisme en fait de Stranger Things. Bon, c'est un mélange de E.T., de toutes sortes d'affaires, de Ghostbusters, on l'a dit tantôt, mais vraiment beaucoup de The Goonies. Dans The Goonies, ben, c'était une bande d'amis qui se tenaient les coudes serrés, disons. Puis ben, en fait, Stranger Things, c'est aussi ça. La chanson The Goonies Are Good Enough, c'est pas une chanson que Cyndi Lauper appréciait beaucoup. Elle a jamais paru sur ses albums, elle a paru sur des compilations seulement. Et ben, bien sûr, elle est sortie en singles et elle est sortie aussi sur la bande originale de The Goonies. Et moi, je l'ai, mais en 45 tours, parce que j'ai des albums de Cyndi Lauper, je pense que je les ai pas mal tous. Mais ben, en tout cas, ceux qu'on connaît bien. Et cette chanson-là, je l'ai sur 45 tours. Puis ça fait depuis tantôt que je cherche ma Christie de petite gogosse là, pour ajuster les 33-45, les 33 tours en 45 tours. Vous savez, les 45 tours, le trou était plus gros. Fait qu'il faut comme une espèce de gogosse en plastique pour le mettre. Puis je la cherche depuis tantôt, fait que... Étienne, sens-toi privilégié parce que ça fait au moins 5-10 minutes que je passe à chercher une gogosse pour faire chanter, pour faire jouer une toune que je sais que t'aimes. Donc, ben on termine là-dessus et ben je vous invite à m'envoyer des suggestions, des commentaires et en fait de m'écrire. Merci, salut!